Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Je vous propose une vidéo exceptionnelle avec un entretien fabuleux et extrêmement intéressant avec Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup, c'est l'un des plus grands experts de la musique électronique en France. Depuis les années 90, il a collaboré avec Radio FG, par exemple, où il avait une émission hebdomadaire, Global Techno, si vous vous en souvenez. Il a aussi collaboré avec Coda Magazine, avec Nova. Il a écrit des livres, notamment Global Techno au début des années 2000, et puis là je l'interview pour son livre Techno 100. On va parcourir toute l'histoire de la techno, en tout cas en résumé, de 1980 à 2024. On va aller en Allemagne, au Royaume-Uni, à Détroit bien évidemment, en Belgique ou aux Pays-Bas. C'est une histoire de la techno résumée en à peu près une quinzaine d'artistes et de morceaux grâce à l'expertise de Jean-Yves Leloup. Merci à lui, merci pour cette interview. C'est parti. Welcome to the club. Come on, dance with me, move your body, your dance with me. Bonjour Jean-Yves et merci de me recevoir ici dans ce fabuleux cadre de la Cité de la Musique et même plus précisément, on est ici dans la salle Pierre-Henri, c'est ça?
Le studio Pierre-Henri, un studio en fait qui a été reconstruit à la mort de ce compositeur de musique concrète Pierre-Henri. Eh bien, ils ont récupéré l'ensemble de son studio. Puis il y a aussi beaucoup de synthétiseurs qui sont derrière nous,
ouais.
Beaucoup d'instruments électroniques et des dispositifs un peu pédagogiques pour faire découvrir à tout un chacun le sampling, le mixage et le remix, par exemple. Donc,
C'est à la Cité de la Musique, à Paris. Nous, on est là pour parler, entre autres, de ton livre Techno 100, qui est sorti pour la première fois en 2018, je crois, c'est ça?
Oui.
Et que là, qui est réédité chez Le Mot et le Reste.
Oui, il est réédité avec une réactualisation. Le livre a bien marché et donc il allait jusqu'à 2018 et là, il va jusqu'à 2025.
Alors, Techno 100, pourquoi? Parce qu'il y a 100 morceaux.
Il y a 100 morceaux techno et puis ils sont précédés d'un texte à la fois un peu historique et analytique sur qu'est-ce que c'est la techno, quelle est son histoire, enfin bon, c'est très condensé.
Eh bien, justement, pour célébrer la ressortie, la réédition, parce que c'est tout récent. Hein,
oui, ça sort début décembre 2024.
Ouais. Eh bien, je t'ai proposé une interview, justement, pour que tu me proposes une petite liste de titres. Alors, sur les 100, on ne va pas faire les 100, mais enfin, il a fallu que tu en sélectionnes quelques-uns. Donc, on va parcourir tout ça. Et on va commencer en 82 avec Front 242, issu de leur album, je crois que c'est leur premier album, Géographie. De 4-2 dans un livre sur la techno, c'était...
Effectivement, au tout début du livre, j'essaye de voir comment dans les années 80, notamment, certains artistes ont préfiguré le son de la techno. On ne parle pas encore techno, le terme il va vraiment apparaître que, on va dire, 10 ans plus tard et s'imposer vraiment qu'à partir de entre 90 et 92. Mais en fait, dans les années 70 et 80, le terme techno, il est souvent présent dans le discours sur la musique, c'est plus un adjectif. On dit que ce morceau, il est un peu techno quelque chose. Donc c'est un terme qui est présent dans la culture liée à la science-fiction, à l'idée du futurisme. Donc c'est un mot qui est déjà présent dans les airs. Il y a des morceaux en ce début des années 80 qui viennent plutôt de ce qu'on a appelé, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le post-punk. C'est toutes ces différents courants musicaux qui ont émergé après l'explosion du punk en 77-78, et notamment dans la musique électronique. Et là, Front 242, effectivement, c'est pas un morceau qui groove comme la techno de Détroit ou la techno de Rave Party, mais il y a vraiment quelque chose dans une espèce de scansion un peu métallique, industrielle, purement rythmique, qui annonce la techno. Alors on aurait pu prendre aussi certains morceaux de Kraftwerk ou d'autres titres, hein, mais au fond, voilà, en ce début des années 80, on sent que quelques années plus tard, quelque chose va arriver.
On fait un saut presque 10 ans après, enfin 8 ans après, en 90, cette fois-ci avec Quasar et Seven Stars, un morceau qui m'a bien marqué aussi, ça.
Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on revient vraiment aux origines de la techno, en 90-91, il y a plein de morceaux qui sortent des deux côtés de l'Atlantique, à Chicago, à Détroit, mais aussi en Hollande, en Belgique, plutôt en Belgique flamande, des morceaux qui, tout d'un coup, qui apportent un nouveau son. Et ce morceau de Quasar, qui est un artiste qui n'a pas connu après une grande destinée, est vraiment, vraiment très différent. C'est-à-dire que, déjà, il montre aussi que la Hollande et la Belgique ont vraiment été deux pays très importants. Ils sont un peu oubliés aujourd'hui. En tout cas, ces deux pays ont été très novateurs au croisement des années 80 et 90. Et ce morceau, en fait, à l'origine, c'était une sorte de morceau house qui a été refusé par un label. Et ce jeune musicien, un peu énervé, s'est déchaîné sur ce morceau. Il a ressemblé des fragments de son groupe de rock précédent. Ça donne un morceau hyper dynamique, ouais, et qui a été vraiment un gros succès dans les raves, ah ouais, et les clubs de tout ce début des années 90. Et c'est vraiment un morceau très précoce aussi. Et en travaillant sur ce livre, en fait, qui rend vraiment un hommage très appuyé aussi à la techno de Détroit, on s'aperçoit que de toute façon, au même moment en Europe, il se passait déjà beaucoup de choses, et il y avait toute une série de morceaux en Angleterre, donc en Belgique et en Hollande, qui préfiguraient aussi cette techno, ou en tout cas qui l'annonçaient là avec quelques mois ou un ou deux ans d'avance.
Ensuite, on va passer à la fois en Allemagne, mais aussi à Détroit, avec X101 et Sonic Destroyer. Jeff Mills, d'ailleurs, qui le dit régulièrement, avait été très influencé par Front 242, dont on a parlé auparavant. Ça sort en 91 et c'est la première sortie du label Trésor.
C'est vraiment un morceau qui fait la connexion effectivement entre la scène techno de Détroit, noire américaine de Détroit, et la scène berlinoise qui en est vraiment à ses tout débuts à l'époque, effectivement, comme tu le dis. C'est un morceau qui porte bien son nom, Sonic Destroyer, la destruction sonique ou sonore, qui est très, très puissant, très énervé, et qui montre aussi assez bien les influences de la techno de Détroit, qui sont souvent très européennes aussi. On a tendance parfois un peu à l'oublier avec les discours actuels sur les questions de néocolonialisme, Black Lives Matter, etc. On a oublié que la techno avait de très fortes et très puissantes origines noires américaines. Donc, dans les jeunes générations, on insiste beaucoup là-dessus. Et c'est vrai, Détroit a été une ville essentielle dans l'histoire de la techno. Mais ce sont des musiciens noirs américains aussi qui étaient très curieux, très ouverts à tout ce qui venait d'Europe, donc à la pop synthétique, à la pop électronique britannique des années 80, à l'italo-disco, et à toute cette musique un peu plus martiale, brutale, industrielle, voilà, qui venait d'Allemagne, de Belgique notamment. Vraiment des jeunes musiciens noirs américains qui s'étaient peut-être sans doute plus curieux que d'autres, et qui à la fois étaient très marqués par l'histoire de la soul, du funk, du jazz, mais qui sont... voilà, qui se sont ouverts et qui ont fait une synthèse comme ça entre... c'est ça qui est très beau dans ce mouvement techno-noir américain, c'est cette synthèse à la fois européenne et américaine. Et X101, il est vraiment, ce morceau-là, il est bien révélateur aussi de cette force, cette énergie, cette rage que Jeff Mills, tout jeune, avait puisé aussi dans la musique européenne. Et puis, c'est aussi ce son des premiers Jeff Mills et des premiers Underground Resistance aussi,
ouais,
très enlevés. Oui, comme
tu dis, on sent la révolte, en fait. Révolte, la rage de jeunes qui veulent... Qui veulent faire quelque chose, qui veulent changer les choses.
Ouais, il y a une énergie assez rebelle, une imagerie très rebelle qui a été développée par Underground Resistance, même dans le nom veut tout dire effectivement. Et d'un autre côté aussi, alors il y a eu X101, X102, X103, ils sont aussi très marqués, ces projets-là, par une imagerie, disons, cosmique. C'est cette fascination pour le cosmos, alors là, et l'exploration scientifique qui est quelque chose de très spécifique à Jeff Mills, mais qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'afrofuturisme aussi, donc ces thématiques qu'on retrouve chez plein de musiciens noirs américains, mais aussi jamaïcains, mais aussi de certains rappeurs new-yorkais, une fascination pour des thématiques liées à la science-fiction, à l'exploration spatiale, à des, on va dire, des sortes de mythologies alternatives comme celle de l'Atlantide, à des formes de spiritualité qui sont mêlées de fiction et de mythologie.
Bah justement, on reste dans la science-fiction, avec The Martian et Stardancer, production Underground Resistance aussi, 1992.
Oui, Mike Banks, semble-t-il, il ne l'a jamais avoué, oui, mais Mike Banks, donc le fondateur de Underground Resistance, c'est un peu le seul vrai membre qui est resté pendant toute l'existence de ce projet, qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est un collectif à géométrie variable, à membres variables, hein, qui accueille les gens pendant un moment. Et donc The Martian, il y a toute une série de morceaux qui sortent sur un label qui s'appelle Red Planet, planète rouge, donc c'est la planète Mars. On est dans ces thématiques de la science-fiction, de la fascination pour le cosmos. Et donc, c'est un morceau aussi qui montre bien comment cette techno de Détroit a apporté une forme de dynamique et d'énergie très particulière. Et là, il y a vraiment cette programmation, la ligne de basse très galopante. Et puis, des séquences de synthétiseurs qui vous élèvent justement un peu vers les astres, vers les étoiles, qui est assez planant. Qui annonce aussi ce qu'on va appeler la trance en Allemagne. Moi, qui reste vraiment un de mes morceaux fétiches de toute l'histoire de la techno. Et là aussi, donc, c'est un morceau qui s'inscrit dans l'afrofuturisme, qui était très présent à Détroit dès le début des années 90. Parce que aussi c'est une génération, tous étaient adolescents à la sortie de Star Wars en 77, mais aussi des séries télé de Star Trek, des Cosmos 1999, ils avaient été nourris enfants à la télévision. Et la science-fiction était très présente dans la techno des années 90, aussi parce que l'an 2000 n'était pas loin. Et au fond, c'était une société qui approchait de cet an 2000 qui avait été longtemps rêvé ou craint par la science-fiction. Et puis l'arrivée, la démocratisation de nouvelles machines, de nouveaux logiciels, un peu à peu, on pouvait brancher ces synthétiseurs, les contrôler avec un logiciel à partir de 93. On vivait à l'époque une évolution en termes d'instruments et de technologies, plus l'arrivée du numérique et la promesse de l'Internet. Ouais. Et l'an 2000 créait comme ça une sorte d'imaginaire futuriste et technologique qui était naturellement...
Une sorte d'utopie aussi.
Oui, d'utopie, oui. Absolument. Et la techno se rêvait comme à la fois la musique du futur, mais d'un futur très très proche, qui était en train d'arriver. Ouais. Quelque chose qui a disparu aujourd'hui, où la techno ou l'électro, c'est la musique, on va dire, du présent tel qu'on le vit. Ouais. Elle n'est pas annonciatrice de telle ou telle époque. Elle est plutôt... elle consacre l'énergie, ou l'énergie du présent et la danse du présent. C'est un autre imaginaire.
Ouais. On va continuer, on va passer en Allemagne cette fois-ci avec, pareil, un groupe classique, je dirais, de la techno, Artfloor, et son titre Experience One, sorti en 92 sur Arthouse, évidemment.
Voilà, Arthouse, c'est un label de... Un label de quoi? De Francfort?
Non.
Franck-Cologne?
Peut-être pas Francfort. Francfort, c'était Svenvet. On corrigera.
À une époque, comme cette époque au début des années 90, les villes étaient parfois souvent plus importantes que les pays. Les scènes étaient très, très localisées, enfin très identifiées. Effectivement, Cologne, Francfort, Berlin, Gand, Anvers, Londres, Manchester. Et ça, c'était de la techno qui vient de Cologne, ça, c'était de la techno de Francfort, etc. Mais 30 ans après, parfois, les voir s'effacent. Mais toujours est-il que Art House, c'est un label qui a été très important, qui est un label qui a porté ce genre qu'on a appelé la trance, qui a commencé à démarrer, oui, vers 92 environ. Et ce morceau Art Trance Experience, ça reste vraiment aussi un de mes morceaux fétiches. Il est fait avec deux TB-303, donc c'est un morceau d'acide techno ou d'acide trance, si on veut, avec une sorte de symbiose comme ça entre des sons très hypnotiques de TB-303 qui monte avec des paliers successifs, qui est vraiment un morceau qui, quand je le réécoute, vraiment, ça me replonge vraiment dans...
À cette époque, c'est ça.
Pas dans au milieu du dance floor. Ouais, vraiment, c'est un morceau qui... voilà, cette capacité de capsule temporelle comme ça. Mais c'est un moment très très particulier, effectivement. 92, c'est aussi une année où plein de genres et de sous-genres commencent à se développer. C'est-à-dire que voilà, le hardcore, la trance, le gabber,
la jungle.
Entre 92 et 93-94, ce sont 2-3 ans comme ça où tout d'un coup, tous les genres et les sous-genres de la musique électronique se créent et explosent. C'était vraiment une période très particulière à vivre parce que tous les 6 mois ou tous les 3 mois, voyait naître quelque chose. Et ce sont tous des genres musicaux qui existent toujours aujourd'hui. Voilà, ils sont plus ou moins populaires selon les années. Et c'est souvent dans l'histoire des musiques populaires en général, hein, que ce soit le rock, la soul, le funk, souvent, il y a beaucoup de choses qui se créent en très peu d'années. C'est-à-dire des patterns, des motifs rythmiques, des styles de production, des albums importants, et qui après s'ancrent dans l'histoire de la musique et se développent après de manière beaucoup plus lente et beaucoup plus longue. Ouais. Et au fond, une grande partie de l'électro actuel, pas toute bien évidemment, s'est créée en gros autour de l'année 92-93.
On repart au Royaume-Uni, avec Underworld, autre groupe mythique, et le fameux tube Rez. D'ailleurs, je pense qu'il est bien en écho avec Experience, parce que là aussi on a des sonorités très acides dans Rez. En 93, sur le label de Andy Weatherall, Junior Boys On.
Oui, Rez, très beau morceau. Alors Underworld, c'est cette formation qui est toujours en activité aujourd'hui. Ils viennent de sortir un nouvel album, ma foi, qui avait l'air très honnête. Qui est un morceau qui est passionnant pour ses effets de paliers successifs, effectivement. Ça monte, ça monte, ça monte, ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment sans doute un truc de l'époque, hein, cette espèce de montée progressive qui n'en finissent pas. Qui font bien sûr écho aussi à la chimie, à certaines drogues, qui reproduisent de manière musicale aussi l'effet d'une drogue, ou en tout cas qui y font écho. Sans lier l'histoire des drogues et des musiques, il y a des connexions qui se créent toujours dans l'histoire de la musique. Ce qui nous intéresse ici aussi avec Underworld, c'est au fond, à cette époque-là aussi, l'Angleterre domine une grande partie de cette scène. Le Royaume-Uni va devenir vraiment la caisse de résonance de l'ensemble de toutes ces musiques. C'est vraiment une scène qui dicte presque les modes. La presse musicale anglaise est dominante. Oui. Tout le monde lit la presse. Enfin, les gens de la scène électro lisent la presse anglaise, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. À intervalles réguliers, l'Angleterre a régné sur le monde de la musique populaire. Ça a été le cas avec les Beatles et les Rolling Stones. Ça a été le cas aussi dans les années 80 avec la New Wave, New Order, Depeche Mode. Et c'était le cas à nouveau avec, en tout cas, cette scène électronique qui, voilà, faisait feu de tout bois entre la jungle, le happy hardcore, la progressive house,
il y avait plein de genres. Il y avait un nouveau terme musical qui sortait quasiment toutes les semaines.
Le handbag.
Le handbag, ouais.
Voilà, plus ou moins, qui sont plus ou moins restés dans l'histoire. Et donc Underworld était une de ces formations leaders, comme l'était Orbital par exemple. Et puis c'est un groupe qui avait réussi, peut-être pas avec ce morceau, mais avec les morceaux qui vont suivre, à faire la fusion aussi avec la scène rock. Parce qu'au début des années 90, voilà, la presse rock, le public rock, les festivals rock, tout ça, c'est vraiment, c'était un peu la guerre, ou plutôt le mépris, ou l'ignorance, ignorance vis-à-vis de la scène électro. Et puis ce sont des formations comme Underworld, puis plus tard Fatboy Slim, ou les Chemical Brothers, ou Prodigy, bien sûr, qui ont fait ce lien avec le rock et aussi avec une partie du hip-hop. Aujourd'hui, la scène européenne, en tout cas dans la scène électronique, elle est beaucoup plus vivante, plus riche, elle est plus continentale. Et l'Angleterre a perdu de son influence. Elle reviendra peut-être plus tard, mais au fond, le Brexit a été aussi un peu un coup très, très dur porté à la culture, à la musique et à l'industrie musicale. Et c'est très triste comment ce pays est redevenu une île.
Histoires électroniques, c'est aussi un site web, histoireselectronique.com, sur lequel vous retrouverez un index complet de tous les sujets, artistes, labels, titres qui sont abordés dans toutes les vidéos de la chaîne. Mais vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne sur ce site, ce qui vous donnera accès à des bonus exclusifs, comme par exemple des podcasts, des versions audio des émissions, des mix exclusifs et plein d'autres ressources à venir. On va repartir à Détroit, enfin pas tout à fait, puisque ce sont des pontes hein, de Détroit, de cette nouvelle génération de la techno Détroit, mais qui signent sur des labels européens. C'est le cas de Carl Craig avec son album Land Cruising et son titre Mind of a Machine que tu as sélectionné, qui est sorti en 95 sur le label espagnol Blanco y Negro. Bon bah Carl Craig qui ouvre la techno à d'autres formes de sonorité et de...
Oui, je pense que pour la scène de Détroit, s'il y a vraiment deux artistes qui doivent rester pour moi, ça serait Carl Craig et Mike Banks, peut-être qui ont développé une carrière, une musique vraiment beaucoup plus riche que d'autres. Carl Craig sort cet album qui s'appelle Land Cruising, alors qu'il est plus disponible sous ce nom-là. Aujourd'hui, si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. En streaming, il s'appelle The Album Formerly Known As, l'album anciennement connu sous le nom de... Ça va être le problème de droit.
Voilà, façon Prince à l'époque.
Je ne sais pas pourquoi.
Oui, problème de droit.
Donc, cet album est toujours disponible, mais sous un autre nom. Okay. C'est un album, effectivement, qui ouvre la techno sur pas mal de choses, à la fois en y sent ses racines jazz et funk. Hein, c'est un grand spécialiste de ces deux genres musicaux. Il y a aussi cette atmosphère assez cosmique aussi, assez planante, qui vous élève. Et puis, ce qui était assez beau chez lui, c'est de voir comment il digérait très bien l'influence du jazz et du funk sans avoir recours au sampling, sans en singeant les D'accord. modes de production, mais en intégrant un esprit. Comme si finalement il revitalisait tout ça. Lui, il a transfiguré.
Moi, je me souviens à l'époque, c'était assez frais comme album. C'est-à-dire qu'on avait une techno qui devenait soit trance, soit une techno assez martiale et assez hardcore. Et là, lui arrive et fait un truc qui est florissant.
Qui est une techno plus mélodieuse, qui est aussi une techno d'écoute. Qu'on voyait arriver aussi au milieu des années 90. Certains se sont dit, on ne peut pas que faire que de la dance music pour le peak time des rave parties. Donc, il faut explorer d'autres couleurs, d'autres timbres. Et c'était le cas avec Carl Craig, qui a eu des projets très dancefloor, et d'autres beaucoup plus, on va dire, plus personnels, ou plus rêveurs, plus mélancoliques aussi.
On continue toujours avec un artiste de Détroit, Kenny Larkin, et le titre Java, qui lui a signé la même année, mais sur RNS, le label belge.
Alors Kenny Larkin, effectivement, c'est un de ces... des artistes dans ce qu'on appelait la deuxième génération de Détroit qui font leur premier album entre 90 et 95 environ. Et ça, c'est un morceau assez rêveur, aussi assez mélancolique, parce que la techno de Détroit, elle a plusieurs aspects. Elle peut avoir un aspect hyper dynamique, assez violent, chez Jeff Mills, chez Underground Resistance parfois, mais aussi, notamment chez Carl Craig et Kenny Larkin, cet aspect beaucoup plus rêveur et cosmique, mélodieux, pas toujours dancefloor, qui traduit aussi cette esthétique, cette émotion afro-futuriste, cette manière de rêver à d'autres mondes, à des mondes alternatifs, à des civilisations alternatives, à des mondes exempts de racisme ou d'esclavage. C'est ça, une des racines de l'afro-futurisme, c'est d'imaginer d'autres mondes possibles. Et on retrouve cette volonté d'évasion, on pourrait dire, chez Kenny Larkin, dans ce très beau disque qui sort effectivement chez RNS, qui est aussi un label de Gand ou Anvers, de Gand.
Pourquoi tous ces artistes, à ton avis, de Détroit signent sur des labels européens? Parce que c'est en Europe que ça se passe? Parce qu'à Détroit, ils n'arrivent pas à...
Parce que d'abord, ils n'ont pas de public. Ouais. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de club. À Détroit ou dans cette partie des États-Unis, vous avez quelques clubs house à New York qui sont vraiment liés à Manhattan, à toute la culture nocturne new-yorkaise, mais au fond, cette musique, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas comprise,
pas médiatisée,
pas entendue,
pas diffusée. Ouais.
Mais voilà, cette musique, elle n'est pas comprise. Par contre, elle est accueillie à bras ouverts, voilà, en Angleterre, en Allemagne, en France plus tard. Et ces gens-là ont naturellement des liens avec les labels européens. Certains vont venir travailler en Europe. Hein. Jeff Mills, assez tôt, est venu vivre à Berlin. Il vit aujourd'hui à Paris. Les États-Unis était très en retard sur cette musique-là, et quand elle est devenue populaire, c'est une forme très commerciale qui ne convenait pas non plus à ces musiciens-là.
Bah, on était en Allemagne, on va y rester, avec Philippe Kamm. Alors tu m'as dit juste avant qu'il était français en fait, mais c'était sur un album, c'était sur un label allemand, Traum Schallplatten, en 2000.
Ouais, Philippe Kamm, c'est un musicien français techno très peu connu. Souvent, je disais, c'était le secret le mieux gardé de la techno française. Donc, c'est un musicien du Havre, effectivement, plus âgé que beaucoup d'autres, qui a connu plusieurs vies et qui a découvert un peu plus tard la musique concrète et électroacoustique. Ici, on est dans le studio Pierre-Henri. Ben voilà, il s'est initié à la production à travers cette école très française avant de s'aventurer du côté de la techno avec toute une série de morceaux qui vont en partie sortir sur Traum, avec une techno qui m'a frappé dès le début puisque c'est une techno sans grosse caisse.
Ah oui, moi j'étais très étonné, j'ai écouté parce que je ne connaissais pas, et c'est un morceau de techno sans rythme en fait. C'est...
Voilà.
Sans
la grosse caisse
sans,
qui
sans
frappe,
pied, voilà,
comme
ouais.
S'il l'avait enlevé de tous ses morceaux.
C'est ça, ouais.
Mais c'est une techno qui est très hypnotique, ouais. Assez très minimaliste, mais savamment orchestré, composé. Alors ce morceau-là ou un autre extrait de cet album qui ouvre un CD mixé de Plastic Man, de Richie Hawtin, ouais, par exemple, qui le jouait pas mal, et qui reste un musicien assez modeste, enfin disons un peu secret. Et puis j'ai fini aussi par travailler avec lui sur ce projet qui s'appelle Quiet Voices, les voix tranquilles, les voix sereines, qui est un nouveau projet musical que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps, où je collabore avec plein de musiciens et musiciennes différents. Et on a fait plusieurs morceaux ensemble qui vont bientôt sortir en France. C'est très beau, c'est vraiment fascinant, et je suis un peu peiné qu'ils ne connaissent pas plus de succès ou de reconnaissance. Il était considéré comme des pionniers de la techno minimale, de ce qu'on appelait la minimale allemande dans les années 2000. Voilà, il a participé à ce mouvement-là, il est identifié à ça. Une musique qui a vraiment, pour dire, régné sur la scène underground des années 2000.
Eh bien, puisqu'on est à Berlin, on va y rester, avec une figure de la scène berlinoise, Hélène Alien, et le morceau Sehnsucht que tu as choisi sur son album Berlinette, deuxième album, sur son label B-Pitch Control, évidemment.
Ouais, Hélène Alien, ben voilà, c'est une DJ berlinoise qui porte bien aussi toute la force, la poésie de cette ville, cette ville qui a toujours fasciné beaucoup de musiciens depuis les années fin 70, 80, et jusqu'à nos jours. Son album s'appelait Berlinette. Si je me souviens bien, elle était une ancienne Allemande de l'Est, hein, ça fait partie de tous ces jeunes de l'Est qui... à la chute du mur en 89-90, on découvert le reste du pays, le reste de la ville, et puis surtout toute cette culture qui a techno qui a émergé en même temps que la réunification. Ouais. C'est ça qui est fascinant aussi avec l'histoire de la techno en Allemagne, c'est que c'est une musique qui est aussi très associée à l'émergence d'une jeunesse réunifiée. Ouais. Et je trouve que cet album Berlinette et ce morceau Sehnsucht, et on sent un peu cette atmosphère berlinoise, ces sons un peu rugueux, et puis ce parler allemand un peu plus rugueux qui convient bien à ce style de production. Et les femmes DJ sont présentes sur la scène française dès le début des années 90, mais la plupart des DJ, elles étaient house ou techno, elles produisent assez peu à l'époque, elles ont peu accès à la production. Elles ne vont pas développer tout à fait leur carrière, c'est plutôt une deuxième génération comme Jennifer Cardini, comme Miss Kittin, Chloé ou en Allemagne Hélène Alien, ouais. Donc qui arrive plutôt dans la seconde moitié des années 90, qui lance peu à peu cette féminisation qui a été assez lente du métier et qui est aujourd'hui très présente. Aujourd'hui, la scène électro, c'est une scène qui s'est beaucoup plus féminisée que beaucoup d'autres scènes musicales, si on compare avec le jazz, qui est la scène où il y a le moins de femmes, par exemple, le métal, le rap ou le rock. La parité n'est toujours pas présente dans les festivals, mais elle a beaucoup progressé ces 5, 6, 7 dernières années. Voilà, je ne l'ai pas mis parce qu'elle était une femme, simplement parce que sa musique était hyper réussie. Moi, c'est une artiste que j'ai beaucoup suivie, en tout cas à ses débuts.
Ça s'appelle Berlinette, mais on n'est pas du tout dans du son berlinois très dur.
Non, il y a un côté un peu pop aussi.
Voilà, oui,
ouais, c'est un morceau, elle apporte des mélodies, des couleurs un peu plus chantées ou un peu plus pop, effectivement, sans que ça soit péjoratif, qui ont fait pas mal de bien aussi à cette techno. Le label Trésor, dont on parlait tout à l'heure, il a imposé un son très massif, très brutal, qui est un peu étouffant à la longue, et Hélène Alien a apporté vraiment un peu d'air frais à cette scène berlinoise.
C'est ça, ouais, Trésor, on est plus dans les sous-sols, dans les caves, et avec Hélène Alien, on respire.
Et on y est toujours, hein, si vous allez au Trésor aujourd'hui, c'est toujours le même son, c'est toujours baigné dans les fumigènes, on ne voit pas à 3 mètres, et c'est quand même très oppressant.
On reste en Allemagne avec un duo que j'adore, là je suis très content que tu l'aies choisi, c'est Am, et le titre Fury en 2007.
Oui, Am, un duo allemand, effectivement. 2007, justement, c'est un peu l'heure de gloire de cette techno dite minimale. Mais on a ce son, effectivement, réduit au minimum, très élaboré, très épuré, effectivement, dont Am apporte un surplus de sensibilité et de poésie à ce genre, qui a été parfois très basé sur le sound design, avec des sons très, très précis.
Ça tournait parfois à la caricature, hein,
des fois. Qui ont été très critiqués pour ça. Bien qu'aujourd'hui, par rapport à la scène qui est très rapide, très frappée, voilà, c'est un morceau qui serait plus difficile à passer dans une très grosse fête. C'est vrai quand on regarde cette playlist, effectivement, quand on écoute le morceau de Underworld ou Philippe Cam ou Am, on ressent, c'est aussi ma sensibilité à ces morceaux, on va dire, sensibles et émotifs, portés par une mélodie parfois qui est un peu lointaine. Mais
toujours un petit peu présente.
J'ai pas mis beaucoup de morceaux brutaux là-dedans.
Ouais, mais c'est pas très grave. On revient des trois, Motor City, justement. Ça s'appelle Motor City, Robert Hood, ancien aussi de Underground Resistance. Je sais pas s'il en fait encore partie ou pas, mais...
Robert Hood, alors oui, c'est aussi un personnage. Alors, il a participé à Underground Resistance et aux albums X101, 102, 103, je crois. Mais il était vraiment très, très jeune à l'époque. Il était un peu assis derrière eux. Enfin, il n'a pas fait grand-chose. Il a appris son métier. Ouais, il était stagiaire auprès de Jeff Mills et Mike Banks avant de prendre son envol. Alors, ça a été aussi un des pères de la techno minimale à Détroit avec des albums hyper radicaux, vraiment.
C'est très minimal, là, j'ai écouté.
Ouais, c'est plus que minimal, ouais. Minimal, avant qu'elle soit allemande dans les années 2000, elle a été à c'est Détroit hein, aussi avec Plastic Man qui l'ont développé. Cette techno minimale qui était vraiment une techno qui était faite pour être mixée en live. Hein, c'est des morceaux pas tout à fait aboutis au fond, qui reposaient sur peu de choses, mais qui ne demandaient qu'à être mixés avec d'autres morceaux tout aussi minimaux. Et c'est ce qu'a toujours fait Jeff Mills, c'est ce que Jeff Mills fait encore et encore. Puis là, dans cet album, il y a aussi la poésie nocturne d'une ville, la nuit, de cette ville à la fois à moitié délabrée, mais dans laquelle les espaces verts ont repris vie, des buissons.
La nature a repris son droit, comme on dit.
Je pense que c'est droit au milieu du centre-ville, ou en fait très proche du centre-ville, c'est très curieux, c'est très beau en fait. Donc Robert Wood à la fois est porteur de cette esthétique culture afro-futuriste, et puis d'un autre côté, il apporte une spiritualité aussi à cette musique-là, comme ça a souvent été le cas à Détroit avec Carl Craig ou Kenny Larkin. Alors, sa différence à lui, c'est qu'il est devenu aussi pasteur. Au fond, ce très beau disque traduit aussi cette sensibilité, cette spiritualité qu'on retrouve souvent dans la musique techno de Détroit.
Dominique Hulberg avec Blau Mais sur le label Cassette. Et là, on est plus dans du baléarique.
De la mélodique techno, c'est un terme qui est très à la mode aujourd'hui.
J'avoue, j'aime pas du tout ce terme, mais bon.
La mélodique techno qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est au fond une techno plus mélodieuse et proche de la trance, mais qui peut parfois être un peu pop, et un peu pas très. Parfois un peu de mauvais goût, mais moi je trouve assez réussi avec Dominique Hulberg. Alors lui aussi qui est un personnage très curieux que j'ai rencontré aussi. Dominique Hulberg, lui, il a une passion pour la nature et il est parfois à certains moments de sa vie guide naturaliste. Voilà, dans le Westerwald, parce que c'est quelqu'un qui a grandi au milieu de la nature. Tous ses albums comme ça prennent l'aspect une sorte de guide ornithologique. Tous ces morceaux-là, ils portent le nom d'un oiseau. Un de ses premiers disques s'appelait Flora and Fauna, donc par exemple. Ouais. Voilà, il tire une inspiration, même si sa musique ne possède pas ou très très peu de son naturel, il tire comme ça une sorte d'énergie, de spiritualité, de son rapport à la nature. Il est un des pionniers de cette vague dite mélodique techno, qui est plus commerciale aujourd'hui. Ouais. Voilà, sur Arte, moi je suis tombé un moment sur un documentaire sur les grands lacs allemands, ils sont
et
très beaux.
Et
je me dis, tiens, cette musique, ça ressemble vraiment à Dominique Hulberg. J'attends le générique et je dis, ah oui, c'est lui, effectivement, il était hyper content. Donc il aime beaucoup travailler aussi, il met sa techno, sa musique électronique au service des documentaires naturalistes qu'on peut voir sur les grandes chaînes aujourd'hui aussi.
Là, on est chez Zoé Macpherson avec On Fire. Là, on change complètement de registre par rapport à Dominique Hulberg. On n'est plus tellement dans la mélodie, là. J'ai l'impression qu'on retournait au début à Front 242 là quand j'ai écouté un peu la musique de Zoé Macpherson.
Alors Zoé Macpherson, ça fait partie justement des nouvelles artistes que j'ai découvert. Elle est très jeune encore, qui figure sur cette réédition de Techno 100. Voilà, parce que j'ai rajouté des nouvelles chroniques et j'essayais de traduire ces dernières années des gens qui essayaient d'apporter de renouveler le langage de la techno. Mais je me dis, au fond, l'esprit de la techno, il y a quand même aussi un esprit d'invention, de recherche, d'exploration, qui aujourd'hui essaye de casser les codes, casser les rythmes, de construire de nouveaux rythmes, de nouveaux types de percussions, de nouvelles inspirations. Et cette franco-britannique est pour moi vraiment un des meilleurs espoirs chez nous. Il y a une espèce de joie, de frénésie comme ça, percussive dans sa musique. Son dernier maxi est un peu plus jungle d'ailleurs. Cet album est vraiment porté comme ça par des, Voilà, par des innovations en termes de programmation rythmique. Et je voulais, en tout cas, dans cette réédition de ce livre Techno 100, donner la parole, en tout cas sur ces dernières années, à des gens qui inventaient la musique du futur, ou en tout cas recherchaient d'autres voies musicales.
J'en profite puisque tu reparles du livre et du fait que tu as dû rajouter des artistes, tu as dû en enlever.
Oui.
Le critère pour enlever, c'est quoi ? C'est que finalement...
Bah, parfois, j'ai enlevé surtout les morceaux des années, de ces dernières années, parce que bon, le meilleur de la techno, tout s'invente dans les années 90, au fond. C'est plus difficile parfois de trouver des morceaux des années 2015-2020, qui sont des années 2010, en fait, qui sont restés dans l'histoire. Il y a eu plein de très bons disques, mais qui n'ont pas la même puissance ou la même valeur historique que d'autres. Alors, Blawan, c'est un jeune Britannique, voilà, qui témoigne quand même de cette école anglaise. Alors déjà, il y a eu une école techno anglaise qui était assez dure, assez brutale, mais avec des sons assez novateurs, des constructions rythmiques qui étaient un peu plus singulières, un peu plus complexes qu'en Europe ou en Allemagne, par exemple, qui est liée aussi à l'histoire de l'Angleterre, à toute cette culture des breaks, par exemple, de l'influence de la jungle, ou de quelqu'un comme Aphex Twin aussi, qui est assez novateur à la fois dans la fabrication des sons eux-mêmes, mais dans les constructions rythmiques. Et on trouve chez Blawan, en tout cas, une vraie recherche sonore, donc en termes de design sonore, et en termes de construction des rythmes. Il est l'héritier d'une forme de recherche et d'invention sonore que je veux mettre en avant à travers ce livre. Mais c'est cette techno post-dubstep, on va dire, voilà, qui s'est nourrie de l'invention rythmique du dubstep,
ouais,
ou de la jungle, puisque la jungle étant voilà, à l'origine du dubstep. Mais qui apporte voilà, de nouvelles constructions rythmiques.
On a fait un peu le tour de ta sélection. C'était fabuleux de parcourir un peu toute cette histoire, là, de 80 à 2022. On fait 40 ans d'histoire. Merci beaucoup. On va revenir aussi un peu sur ton travail ici à la Philharmonie, ou à la Cité de la Musique, puisque tu prépares une nouvelle expo. Tu étais à l'origine commissaire d'exposition.
Commissaire
d'exposition de l'expo électro qui avait eu lieu à la Philharmonie en
2019.
Et donc là, tu nous prépares une nouvelle expo, cette fois-ci sur le thème de la disco.
Ouais, Disco I'm Coming Out, qui est le titre de cette expo qui ouvre le 14 février 2025 jusqu'au 17 août. Donc c'est une expo qui va durer 6 mois.
Ah, oui.
Cette expo sur la disco, alors, elle se concentre vraiment sur les années de 70 à 83 à peu près. On a des tableaux d'Andy Warhol, de Keith Haring, qui était un habitué du Paradise Garage, par exemple. On a beaucoup de travaux de photographes de l'époque qui ont capté l'esprit de l'époque. On a des costumes de scène, voilà, des costumes de Sylvester, par exemple, grand chanteur. Aussi des vieilles platines, des platines Torrens aussi, qui étaient les premiers DJ new-yorkais, enfin, américains utilisaient des platines Torrens, qui étaient des platines suisses ou suisses-allemandes. Et puis, on montre aussi comment cette musique pénètre dans la pop culture.
Et en plus, une expo portée par une bande-son.
Oui, bien sûr. Bah, très belle bande-son, un mix qu'a réalisé Dimitri From Paris. Et Dimitri, donc, il a fait un mix d'1h30, mais avec 30 morceaux. C'est-à-dire donc, il a fait des édits de chacun d'une trentaine de morceaux. Assez impressionnant. Moi, j'étais très, très ému par ce mix qui est très réussi. Ouais.
Eh ben, j'ai hâte de cette expo qui ouvre donc le
14 février 2025 jusqu'au 17 août. Et elle a un bon potentiel pour voyager par la suite.
Merci beaucoup, merci. Jean-Yves. Merci de m'avoir reçu et merci pour cet entretien. Merci beaucoup.
Merci.